VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 18h30 GMT. On est mercredi 8 mars 2017. Au sommaire, des fosses communes découvertes dans le centre de la République démocratique du Congo où des combats ont récemment opposé l'armée et une milice locale. L'Afrique du Sud va s'expliquer dans un mois devant la CPI sur son refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir au moment où le pays vient d'annuler sa décision de se retirer de la cour. L'accord entre le gouvernement d'Union nationale libyen et l'Italie sur l'immigration ne fait pas l'unanimité. Et puis journée internationale de la femme, cette année l'accent est mis sur la femme dans le monde du travail.
C'est une femme exemplaire pour nous. Chaque fois, c'est lui qui fait la lessive pour les habits de ses enfants.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Trois fosses communes ont été découvertes dans le centre de la République démocratique du Congo où des centaines de personnes ont été tuées depuis juillet dernier dans des affrontements entre les forces de sécurité et une milice locale. C'est l'ONU qui l'a révélé aujourd'hui, Michel Joseph.
Au moins 400 personnes sont mortes et 200 000 ont été déplacées depuis le début des combats contre la milice Kamuina Nsapu. La police a tué son leader en août dernier, provoquant une escalade de la violence. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exhorté le Conseil des droits de l'homme à Genève à établir une commission d'enquête afin, dit-il, de faire la lumière sur les rapports récents de violations graves et la découverte de trois charniers. Zaïd Raad Al-Hussein n'a donné aucun détail sur ces fosses communes lors de son discours au Conseil qui a abordé la situation des droits humains dans des dizaines de pays. Le Bureau des droits de l'homme en RDC ne pouvait pas non plus fournir d'autres précisions. Quant à la ministre congolaise des droits de l'homme, elle a déclaré à Reuters qu'elle n'était pas en mesure de commenter les propos de M. Zaïd dans l'immédiat. Le gouvernement congolais enquête sur les allégations similaires, y compris de présumées exécutions sommaires impliquant ses forces armées, mais a rejeté les offres de soutien du bureau onusien en RDC qui l'accuse de partialité.
L'armée nigériane a annoncé l'ouverture d'enquêtes sur les accusations de violation des droits de l'homme portées contre ses troupes, notamment dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. L'armée avait initialement rejeté ces accusations en bloc. Toutefois, le massacre de musulmans chiites en décembre 2015 par l'armée n'est pas inclus. Une enquête de la Commission nationale pour les droits de l'homme a déjà confirmé en août dernier la mort de 347 personnes sans qu'aucune sanction n'ait été prise à ce jour. Des ONG internationales et locales exhortent le Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit discuter demain de la crise burundaise, à prendre des sanctions ciblées contre les responsables de violations des droits humains dans ce pays des Grands Lacs. Les signataires dénoncent l'isolement croissant du pays. Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà pris des sanctions ciblées contre les responsables du régime burundais. La Cour pénale internationale a convoqué l'Afrique du Sud le 7 avril prochain pour s'expliquer sur son refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir lors d'une visite qu'il avait effectuée dans le pays il y a 2 ans. Cette convocation intervient alors que Pretoria vient formellement d'annuler sa décision controversée de claquer la porte de la CPI. Les explications de Jacques Aristide.
Cette annulation est toutefois temporaire, le temps pour le gouvernement sud-africain de se conformer au jugement de la Haute Cour de Pretoria qui a invalidé le 22 février dernier l'instrument de retrait déposé à l'ONU parce qu'il n'avait pas été précédé d'un vote du Parlement. Mais un projet de loi de retrait doit être déposé prochainement devant les députés sud-africains. En fait, Pretoria exprime son intention de quitter la CPI depuis fin 2015, après des critiques pour ne pas avoir exécuté le mandat d'arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir, accusé de génocide et de crimes de guerre. Une autre responsable du gouvernement, Ayesha Johar, a déclaré aujourd'hui que la convocation des autorités sud-africaines par la CPI concernait donc le non-respect du pays de ses obligations en tant qu'État membre. Plusieurs pays africains reprochent à ce tribunal international basé à La Haye de concentrer ses efforts sur l'Afrique.
La Cour pénale internationale, donc, qui a convoqué l'Afrique du Sud pour le 7 avril prochain. Près de 900 étudiants sud-soudanais réfugiés dans un camp de l'ONU dans la capitale Juba ont renoncé cette semaine à passer l'examen de fin d'études secondaires par crainte pour leur sécurité. Seuls 70 d'entre eux ont accepté d'obéir aux ordres du gouvernement qui leur a intimé de quitter le camp situé sur une base fortifiée de l'ONU pour passer leur examen à l'extérieur, a ajouté donc un responsable des Nations Unies. Le cyclone Enao a fait au moins 4 morts et 4 000 sinistrés à Madagascar, selon un nouveau bilan annoncé aujourd'hui par les autorités. Le cyclone devait toucher la capitale du pays Antananarivo dans la nuit. Des évacuations ont déjà eu lieu dans la capitale où Enao est déjà attendu, donc vers 3 heures heure locale, minuit GMT, mais qui subit déjà de très fortes pluies depuis ce matin. Selon un correspondant de l'AFP sur place, 500 personnes ont été déplacées d'un quartier du sud de la capitale et provisoirement relogées dans un stade.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Près de 40 personnes ont été tuées aujourd'hui et une cinquantaine d'autres blessées dans une attaque contre le principal hôpital militaire d'Afghanistan. L'hôpital situé au centre de Kaboul a été pris d'assaut par un commando d'insurgés islamistes déguisés en médecins. Les précisions de Dili Diko.
Selon le porte-parole du ministère afghan de la Défense, le général Daud Waziri, la plupart des victimes étaient des patients, des médecins et des infirmiers. C'est à 9h que la première explosion a retenti, déclenchée par un kamikaze à l'entrée arrière de l'établissement, ouvrant la voie aux commandos. Ce n'est que 6h après le début de l'assaut, en milieu d'après-midi à Kaboul, que les forces spéciales afghanes déposées en hélicoptère sur le toit de l'hôpital ont pu mettre fin au cauchemar des patients et des soignants. Pris sous le feu de 4 assaillants, tous tués par les forces de l'ordre, l'hôpital de 400 lits et ses occupants ont vécu une journée de terreur ponctuée de détonations et de tirs d'armes automatiques qui ont laissé les salles de soins noyées de sang. Le groupe État islamique a revendiqué sur sa messagerie cryptée Telegram cette opération, alors que les talibans afghans ont démenti toute implication sur Twitter.
La Journée internationale de la femme est placée cette année sous le thème de leur place dans le travail. Une journée pour tenter de faire avancer la cause des femmes, l'occasion aussi de mettre en avant les combats féministes menés un peu partout dans le monde et de faire donc l'état des lieux. Salwa Diafari.
Pour les femmes, le combat est permanent. Droit à l'avortement, droit de conduire, de voter ou tout simplement droit au respect dans des sociétés au développement desquelles elles contribuent, les femmes ont encore du chemin à faire. Les inégalités demeurent. Selon les chiffres de l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 23% au moins que les hommes. La violence faite aux femmes perdure elle aussi. L'Organisation mondiale de la santé estime que le pourcentage de femmes victimes d'abus physiques ou sexuels commis par un membre de la famille varie entre 15% au Japon et 71% en Éthiopie rurale. L'ONU a choisi cette année comme thème la place des femmes dans le monde du travail et évoque une planète dans laquelle la moitié des femmes aura un emploi d'ici 2030. Et pour la première fois, le 8 mars, les femmes ont décidé de se mobiliser de manière coordonnée dans 50 pays et dans les 5 continents pour célébrer un jour sans femmes. Une grève planétaire pour mettre fin à la violence sociale, légale, politique, psychologique et verbale que les femmes subissent sous différentes latitudes.
Et puis en Israël, les propos d'un rabbin contre l'intégration des femmes dans l'armée ont provoqué un tollé ce mercredi, Journée internationale de la femme. Ces propos ont fait scandale dans un pays où les femmes effectuent un service militaire obligatoire de 2 ans. Le rabbin a notamment affirmé, selon des propos rapportés par les médias israéliens, qu'elle rentrait à l'armée juive et en sortait non juive. Il s'est aussi demandé qui accepterait de se marier avec des femmes ayant servi dans des unités combattantes. Les forces irakiennes ont repris près de Mossoul, une prison tristement célèbre parce que le groupe État islamique y aurait exécuté des centaines de personnes et enfermé des femmes yézidis. Les troupes irakiennes préparent l'assaut sur la ville où les combats s'annoncent féroces. En France, le parquet de Paris a demandé un procès pour Bernard Tapie et 5 autres personnes dans l'enquête sur l'arbitrage controversé qui a permis à l'homme d'affaires de toucher 404 millions d'euros pour régler un vieux litige avec la banque Crédit Lyonnais. Le président français François Hollande a évoqué ce mercredi la possibilité de sanctionner les actions contraires à la paix dans le conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan autour de la région séparatiste du Nagorno-Karabakh, disputée par les deux pays. Le chef d'État français a évoqué des mécanismes de vérification. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Claire Morin-Jubourg.
La forte chute des cours mondiaux du cacao pourrait provoquer de fortes tensions sociales en Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial. La filière française du commerce équitable s'inquiète des répercussions injustes pour les petits producteurs. La chute des cours est une bombe sociale, selon Joël Stoll, délégué général de la plateforme française du commerce équitable, qui fédère les acteurs de la filière. Des centaines de containers sont bloqués, invendus, dans le port d'Abidjan. Le cours du cacao est tombé la semaine dernière à New York, à son cours le plus bas en 8 ans et demi. Le début de l'année 2017 est positif pour le tourisme en Tunisie, selon les chiffres de l'ONTT, l'Office national du tourisme tunisien. Le nombre de touristes a augmenté de 19,8% en janvier et de 38% en février par rapport à l'année précédente. Après les attentats de 2015, le tourisme reprend peu à peu. Les tendances pour l'été sont positives, se réjouit Neji Ben Othman, le directeur adjoint de l'ONTT. L'impact de la baisse des matières premières sur la croissance de l'Afrique inquiète la BCA, l'Association des banques centrales africaines. C'est ce qu'a déclaré son président, Godwin Emifiele, à l'ouverture de la dernière réunion de cette association qui regroupe 39 banques centrales africaines. La BCA va proposer une série de solutions pour tenter de juguler le phénomène.
À présent, la page de sport avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdou. Bonsoir à tous.
Alors, Ibenge arrête avec les Léopards de la RDC.
Florent Ibenge ne prolongera pas son contrat en tant que sélectionneur principal des Léopards de la RDC. Il n'entraînera pas non plus la sélection locale au CHAN 2018. Le technicien congolais l'a fait savoir ce mercredi à nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Et la nouvelle suscite de nombreux commentaires sur place. Les détails avec Thierry Kambundi.
Florent Ibenge a annoncé en effet qu'il ne prolongera pas son contrat à la tête du staff technique des Léopards de la RDC qui s'achève fin 2018.
Cette poussée médiatique un petit peu surréaliste par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que quand on regarde bien, on a été battu contre le Ghana. Mais on a fait une année 2016 sans défaite et on a perdu un match et on dirait que c'était la catastrophe mondiale. J'ai un contrat et je l'ai dit que j'allais pas le renouveler.
Nommé sélectionneur en août 2014, Ibenge a fini troisième à la CAN 2015 avant de remporter le championnat d'Afrique des Nations l'année suivante au Rwanda. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, le Barça va tenter l'impossible. 19h45, temps universel. Barcelone doit éviter de devenir fou et procéder avec patience ce mercredi pour tenter de remonter 4 buts de retard face au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'a dit hier en conférence de presse Luis Suarez, qui juge que ce défi est difficile mais pas impossible. Dortmund, de son côté, devra rattraper un but de retard face au Benfica Lisbonne.
Le Real et le Bayern, déjà en quart de finale de la Ligue des Champions.
Déjà vainqueur à l'aller 3-1, le Real s'est imposé sur le même score à Naples et prend donc le chemin des quarts de finale, une 7e fois d'affilée, un record. 5-1 également, l'autre défaite d'Arsenal qui a été battu sur le même score qu'à l'aller par le Bayern de Munich. Une débâcle et une désillusion de plus pour Arsène Wenger.
Et demain, les huitièmes de finale de l'Europa League.
Manchester United et José Mourinho vont défier Rostov demain lors des huitièmes de finale. Choc germano-allemand entre Schalke 04 et Mönchengladbach. En Belgique aussi se tiendra un derby national entre la Gantoise et Genk. Également l'opposition entre Lyon et l'AS Rome.
Le Brésilien Roberto Bianchi a été nommé au poste de sélectionneur de l'équipe nationale angolaise de football.
Âgé de 50 ans, Bianchi entraînait depuis l'an dernier l'équipe du Petro de Luanda, le club de la compagnie nationale de pétrole angolaise Sonangol, dirigée par Isabel dos Santos, la fille de l'actuel président angolais. Bianchi est le 4e Brésilien à diriger l'équipe d'Angola. Il remplace José Quilamba, coach intérimaire depuis 2015.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le maire de la capitale sénégalaise, Khalifa Sall, a passé hier sa première nuit en prison après avoir été inculpé. Il est accusé d'avoir détourné près de 2 milliards de francs CFA. Deux de ses collaborateurs ont également été écroués. Des arrestations qui ont suscité beaucoup de réactions à Dakar. Reportage Seydina Abagay.
Les partisans de Khalifa Babacar Sall se disent meurtris par l'incarcération de leur leader. Babacar Diop, coordonnateur national du mouvement politique ADK, est membre du cabinet du maire de Dakar.
Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est que tous les voleurs qui veulent vraiment s'en sortir, ils n'ont qu'à se rallier au parti présidentiel et vraiment tout est nickel chez toi. Le malheur aujourd'hui, être intègre, avoir des vertus et des valeurs, n'a plus de sens au Sénégal.
Du côté de la majorité présidentielle, on estime que cette affaire n'a rien de politique. Abdou Mbow, vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint du parti au pouvoir.
Les corps de contrôle de l'État, plus précisément l'IGR, a séjourné pendant 18 mois au niveau de la mairie de Dakar. Ils ont produit un rapport et ce rapport a été transmis au président de la République. Le président de la République l'a transmis au gouvernement. Et comme seule recommandation au niveau du rapport, le procureur nous l'a dit, c'était d'ouvrir une information judiciaire. Ce que les autorités judiciaires ont fait quand le Premier ministre a transmis le rapport.
Les partisans du maire de Dakar affirment, eux, que les inspecteurs généraux d'État n'ont jamais épinglé l'édile de la ville.
Aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils l'ont épinglé ont fait des investigations audites durant 18 mois sans trouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, il le suit pour des fonds politiques qui n'existent nulle part.
Le porte-parole du parti au pouvoir persiste et donne des preuves de la véracité des accusations à l'encontre du maire de Dakar.
Des factures fausses ont été produites et vous avez entendu la secrétaire qui a produit les papiers et le magasinier dire que ce sont des fausses factures pour justifier l'utilisation de ces fonds. Ceci n'enlève en rien qu'ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence.
Au Sénégal, l'emprisonnement de Khalifa Sall est perçu par certains comme une cabale politique visant à écarter l'un des plus sérieux adversaires du président Macky Sall. Mais le camp du chef de l'État rejette toujours ces accusations. À Dakar, pour la Voix de l'Amérique, Seydina Abagay.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Conditions de vie critiques des personnes déplacées du site de PK3 à Bria, dans le centre de la République centrafricaine. Fuyant les violences dans cette partie du pays, elles sont plus de 10 000 à trouver refuge dans ce camp de fortune. Reportage de Freeman Sipila.
Pas de nourriture, pas de soins adéquats, des huttes parfois à moitié construites. Plusieurs centaines de familles vivent dans la précarité. Les enfants recouverts de poussière traînent au sol, certains quasiment nus. Cette femme a fui son village de Lafolo à une quarantaine de kilomètres de Bria sur l'axe Ipi.
Les combats ont atteint les villages de Mbrutu, Gopudo et Lafolo sur l'axe Ipi. Ils ont brûlé des gens dans leur maison. C'est ce qui nous a obligés à fuir avec les enfants. Nous avons fait toutes ces distances à pied. Les enfants ont beaucoup souffert.
Depuis leur attroupement fin novembre 2016 dans ce camp de fortune installé aux alentours de la base locale de la MINUSCA, ces déplacés n'ont reçu que quelques kilos de riz et du sel. La distribution a été faite par l'ONG Espérance, une organisation locale. Maurice, père de 6 enfants, trouve insignifiante la quantité des vivres distribués.
Vraiment, ici, là, on ne peut pas trouver quelque chose pour manger. On a beaucoup souffert ici.
Du côté des ONG, vous n'avez pas reçu d'aide ?
C'est insuffisant. Carrément, c'est insuffisant. Les gens ne peuvent pas trouver pour 2 jours ou 3 jours. Par exemple, le riz, là, les gens, ils vont donner un petit seau. Vraiment, ça, là, ça suffit jamais.
Voilà le maître qui s'avance, sans perdre du temps. Mettez-nous à
Alors, récitation, savez-vous compter?
Pour sauver l'éducation des enfants, une école est créée sur le site. Elle est dénommée école d'urgence. Elle accueille 896 élèves. Azuko Ndoro, le directeur.
Nous sommes ici, il y a des enfants qui sont déplacés sur l'axe EPI et puis ils sont venus sur... Il y a trois hangars avec des bâches qu'on a fait. Nous faisons l'école jubilée. Il y a des maîtres qui viennent dans l'après-midi et puis il y a d'autres qui viennent à 7h30 et puis ça termine à 12h. C'est l'idéal qui prend en charge. On a fait déjà 2 mois et 15 jours aujourd'hui. Nous n'avons pas encore eu notre salaire.
Les affrontements meurtriers opposant le FPRC à l'UPC, deux factions de la rébellion ex-Séléka, fin 2016 et début 2017 à Blia et dans les villages périphériques, ont provoqué le déplacement de plus de 20 000 personnes. Fluman Sipila, Blia, VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Wikileaks a publié près de 9000 documents présentés comme provenant de la CIA, estimant qu'il s'agissait de la plus importante publication de matériel secret du renseignement jamais réalisé. Le site met en garde contre le risque d'une prolifération des armes informatiques ainsi exposées. Pour décrypter ces révélations du site créé par Julian Assange, Tatiana Mousseau a joint Basile Nyon, directeur de BCCA Networks et Technologies à Washington.
Parcourir les documents, ça prendra énormément de temps. Vérifier s'ils sont authentiques, ça va être compliqué. Parce qu'il s'agit là de technologies de pointe. Et seule la CIA peut, ou les services de renseignement peuvent certifier que ce qui est dit est vrai, puisque ce ne sont pas des techniques répandues dans le public.
Est-ce que Wikileaks, qui a reçu elle-même une partie et qu'elle a décidé de rendre publique, est-ce que la CIA, pour l'instant, a réagi et comment?
Une agence aussi importante que la CIA ne peut pas suivre Wikileaks pour réagir à tout ce que Wikileaks dit. Si un jour la CIA doit se prononcer, à mon avis, ce sera devant le Congrès, mais pas dans le public, pas à suivre une structure comme Wikileaks qui dit disposer de documents, même s'ils exposent les documents, tout ce qui sera dit dedans n'a rien à voir avec l'activité qu'ils dénoncent. Parce que l'activité qu'ils dénoncent est plus logiciel que manuscrite.
Alors justement, selon toujours ce site, ces documents montrent que l'agence de renseignement a élaboré plus d'un millier de programmes malveillants, virus, cheval de Troie et autres logiciels pouvant soi-disant infiltrer et prendre le contrôle d'appareils électroniques. Est-ce que c'est possible selon vous?
C'est possible. Toute structure de renseignement qui a à cœur de protéger un pays donné est obligée d'être d'abord la pointe de la technologie logicielle et est obligé d'écouter par tous les moyens tout ce qui peut nuire à la sécurité de ce pays. Et ce qui est dit est possible. Je ne pense pas que les États-Unis soient si cela est vrai, que les États-Unis soient le seul pays à le faire. Je pense que toutes les puissances de la planète ont les mêmes attitudes. Il faut protéger la sécurité nationale et tous les moyens sont bons pour le faire. Je voulais juste dire ici qu'on vous parle souvent des objets connectés. Mais les objets connectés, c'est réellement, pour toute structure de renseignement, c'est le meilleur gâteau qu'on puisse leur offrir pour pouvoir accomplir leur rôle d'information, d'écoute et de traque.
Alors justement, la célèbre agence est par ailleurs accusée par Donald Trump, comme les autres agences de renseignement américaines d'ailleurs, de faire fuiter des informations suggérant que certains de ses proches ont eu des contacts l'an dernier avec le renseignement russe. Quelle crédibilité accorder aux agences de renseignement, même si Donald Trump, qui est désormais le président et qui est censé avoir des débriefs de toutes ces agences-là, même si lui, aujourd'hui, les accuse et met à mal leur fiabilité?
Les agences de renseignement sont si puissantes, les services secrets sont dans une telle attitude de recherche d'informations que tout le monde a peur de se sentir suivi, espionné, etc. Moi, j'appelle ça un peu l'espionnage. Tout le monde pense qu'on est suivi. Les gens n'ont pas le temps de suivre tout ce monde-là parce qu'ils ont énormément à faire.
C'était Basile Nyon, directeur de BCCA Networks and Technologies à Washington.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on célèbre la Journée internationale des femmes avec un focus sur l'évolution des femmes dans le monde du travail. L'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, de revenir sur le courage et la détermination de femmes ordinaires ou non qui jouent un rôle dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Quelle place pour les femmes au cœur de la mondialisation et des révolutions technologiques? Quelles sont les nouvelles opportunités? Où en est leur autonomisation économique en Afrique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Et en cette journée du 8 mars où l'on souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde, VOA Afrique se rend à Bujumbura, la capitale du Burundi. Dans un quartier de Kamenge, vit une brave maman qui a 5 enfants. Elle se bat au quotidien seule pour essayer de subvenir aux besoins de sa petite famille. Suivons ce reportage de Christophe Kourounziza.
La trentaine pile, Francine, disait Menchi, se réveille tous les jours à 5 heures du matin. Elle aime bien commencer par une chanson qui glorifie le tout-puissant en faisant la vaisselle. Elle s'occupe de ses 5 enfants pour qu'ils puissent se rendre à l'école en ayant goûté à un petit déjeuner consistant. C'est après s'être occupé de sa petite famille, laver, nourrir les enfants âgés de 4 à 16 ans, qu'il se rend en ville faire son petit commerce au quotidien. Témoignage.
Je vis avec mes 5 enfants, dont l'un est le fils de ma grande sœur qui n'est plus là. Chaque matin, très tôt, je vais m'approvisionner au marché communément appelé chez Sioni et je viens vendre mes produits en ville. Je vends des fruits, oranges, mangues, mandarines. J'ai des clients réguliers qui me demandent quotidiennement ces fruits. Je fais toutes sortes de commerces. De temps en temps, je vends des souliers. Après, je vais voir mes enfants, comment ils se sont comportés pendant la journée. Par exemple, aujourd'hui, 3 enfants sont partis à l'école, les 2 autres vont aller dans l'après-midi. Je vends des oranges, des mangues et des mandarines. Mais je suis prête à faire toutes sortes de commerces qui me fait des rentrées pour les enfants. Je peux vendre même des souliers pour toutes les catégories de personnes. Tout ça pour l'éducation de mes enfants et de leurs besoins au quotidien. Je peux gagner 2, 4, 5, 6 000 et je remercie toujours le bon Dieu. Mon mari est parti il y a longtemps pour la RDC, mais il n'est toujours pas de retour.
Son enfant, âgé de 14 ans, estime que Dieu leur a offert une maman idyllique.
Maman est une personne exemplaire. Elle achète pour nous la nourriture quotidienne seule, nous achète des vêtements et des souliers. En plus de tout cela, elle paye mensuellement le loyer. Je n'oublie pas l'argent pour le Minerval à l'école à chaque trimestre. On ne manque presque de rien. C'est un honneur que Dieu nous a fait d'avoir une maman pareille.
C'est vrai que les enfants louent souvent les qualités de leurs parents, mais 2 voisines reconnaissent que cette maman de 30 ans est exceptionnelle.
C'est une femme exemplaire pour nous. Chaque fois, c'est lui qui fait la lessive pour les habits de ses enfants. Je peux dire qu'il peut se rendre au lit à 23 heures en état de faire les travaux de sa propre maison.
Cette maman qui se lève très tôt le matin et se couche tardivement ressemble à des millions d'autres Burundaises qui luttent pour la survie de leur familles respectives dans un pays où le Burundais moyen vit avec moins de 1 dollar par jour. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait Lionel Gaïma, console Wagner Roberts. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu 24 heures sur 24. Au revoir.
Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.